Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin. À la technique ce matin, Vincent Désière. Où porter son regard cette semaine sur ce passage ludique du Dada Manifeste sur l'amour faible et l'amour amer que le poète Tristan Tzara a lu à l'une des expositions de Picabien en décembre 1920. Pour faire un poème dadaïste, prenez un journal, prenez des ciseaux, choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème. Découpez l'article, découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. Agitez doucement, sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre, copiez consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac, le poème vous ressemblera. Et vous voilà un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante encore qu'incomprise du vulgaire. Notre invité est un écrivain dont le premier roman, écrit à son arrivée en Belgique après une enfance au Japon, racontait l'histoire d'une omelette spatiale. Il n'a hélas pas été publié. Le premier à l'avoir été s'intitule « Hygiène de l'assassin ». Il est paru en 92. Depuis, la démiurge n'a cessé d'écrire. Elle compose 4 romans par an mais n'en révèle au public que le quart. Son dernier ouvrage est paru cet été chez Albin Michel sous le titre « Le livre des sœurs ». Pas d'omelette spatiale dedans, mais un groupe de rock au nom irrésistible, Les Pneus, dont j'attends fébrilement l'album.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Eva.
Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde, vous, dont beaucoup de romans commencent par justement des êtres mis au monde, avec tous leurs manquements et leur statut de dieu ?
Ma foi, oui. Pourtant, tout n'a pas été simple, mais tout compte fait, tout ceci est très intéressant.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même ? Il est beaucoup question de haine de soi dans vos livres.
C'est de très loin ce qu'il y a de plus difficile dans ma vie, c'est ma cohabitation avec moi-même. Je l'aménage comme je peux, à coups de psychanalyse sauvage, d'écriture surtout, mais aussi de champagne.
Champagne, évidemment. Et psychanalyste sauvage, c'est-à-dire, pourquoi sauvage ?
C'est-à-dire que je suis ma propre psychanalyste et parfois je m'agresse moi-même pour cesser de me faire souffrir. Je me fais à moi-même des prises de judo mentales dans l'espoir de me sortir de certains enfers.
Je crois que vous avez connu quelques états de transe sous ayahuasca.
Oui.
Et la plante, quand elle s'est révélée à vous, vous a encouragé à être votre amie, Amélie Nothomb.
Oui, c'est terriblement difficile, hein, devenir sa propre amie. Je vous jure que j'y travaille, mais je n'ai pas beaucoup de talent pour ça.
Pensez-vous qu'on puisse s'aimer et être un bon écrivain ?
Je n'en sais rien. Je pense que tout est possible et que tout existe, mais clairement, j'ai échoué dans ce domaine.
Mais il y a eu quelques progrès tout de même. Vous notez des progrès ?
J'avoue que je ne les remarque pas beaucoup.
Ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus, ce n'est pas votre préoccupation principale.
Ce n'est pas ma principale préoccupation. Ma principale préoccupation, c'est vraiment l'amour des sensations fortes. Et pour me donner à moi ces sensations, j'y arrive pas mal. Mon espoir est qu'en me les donnant, je les procure aussi au lecteur. Et jusqu'à présent, j'ai un petit peu l'impression que c'est ce qui se produit.
Vous provoquez l'aventure pour connaître ces sensations fortes ?
Non, quand j'écris, je sais exactement quelle sensation je veux me donner. Par exemple, certains de mes livres, je les ai écrits dans le but que le sol disparaisse sous mes pieds. Et j'ai réussi à me donner cette sensation. Et parfois, cette sensation se propage aussi au lecteur. Donc ça, c'est mon idéal absolu. Quand la sensation que l'auteur se donne est également la sensation qu'il donne au lecteur.
Justement, ce qui vous donne envie de vous lever, Amélie Nothomb, c'est l'écriture. Alors, je suis désolée, je vais vous poser des questions qu'on vous a déjà posées, mais je sais que le processus d'écriture intéresse beaucoup les gens. Vous écrivez 4 heures par jour, tous les jours.
Tous les jours, sans aucune exception. Même quand je suis malade, même quand c'est la fin du monde. Voilà, vous savez, ça fait 35 ans que ça dure à ce régime-là. Et ça ne dépend même plus de ma volonté. Ma machine a à ce point intégré ce processus que, où que je sois, quel que soit le décalage horaire, je me réveille au plus tard à 4 heures du matin et la machine se met en route.
C'est toujours le matin ?
C'est toujours le matin.
Vous êtes, quand vous êtes chez vous, sur un tabouret de cuisine avec un bic et un cahier ?
Oui, je n'ai pas de bureau. J'ai même l'impression qu'un certain confort nuirait à mon écriture.
Et je crois que vous n'avez pas Internet non plus.
Alors, je ne sais même pas ce que c'est. Je suis le degré zéro des technologies. Je suis incapable d'allumer un ordinateur, alors inutile de vous dire qu'Internet, je n'ai aucune idée de ce que ce peut être. Je ne possède pas de téléphone portable, je ne possède rien, à vrai dire.
Et donc quand vous ne savez pas, vous inventez, mais j'ai lu par exemple que pour Mercure, vous avez appelé une miroiterie pour avoir des informations.
C'est-à-dire que j'avais... Bon, inventer des informations, ça me paraît quelque chose de dénué d'importance, sauf quand il est question d'un miroir. Un miroir, c'est quand même très important. Donc là, j'ai appelé la miroiterie, donc les pages jaunes suffisaient.
Vous comparez chacun de vos livres à une grossesse, avec le blues qui va avec une fois achevé ?
Oui, c'est tellement vrai que je n'ai trouvé qu'un seul remède à ce blues postpartum, c'est de retomber enceinte tout de suite après. Donc voilà, c'est ce que je fais. Dès à la seconde où j'ai accouché, j'enclenche la nouvelle grossesse.
Il n'y a jamais de douleur dans l'écriture, chez vous, Amélie Nothomb ?
Le mot douleur n'est pas celui qui convient. Il y a énormément d'angoisse, énormément de difficultés. La principale angoisse étant celle de ne pas y arriver. Je pense en particulier à mon livre Soif, dans lequel je raconte la passion du Christ, écrite à la première personne du singulier. Chaque matin, quand je me levais et que je me mettais à écrire, j'étais terrassée d'angoisse à l'idée de ne pas décrire exactement les sensations de Jésus sur la croix. Il était question pour moi de remonter sur la croix tous les matins. Donc c'est difficile, c'est pas de l'ordre de la douleur, c'est extrêmement difficile.
Est-ce que vous vous amusez comme dans l'enfance, puisque l'enfance est très importante chez vous et vous recréez cet état de l'enfance à chaque fois que vous créez ?
Je m'amuse extraordinairement. Ça peut avoir l'air paradoxal avec ce que je viens de dire tout à l'heure, mais pas du tout.
Non.
Les véritables amusements dans la vie sont des expériences très difficiles. Ce qui est facile n'amuse pas du tout.
Dans un instant, il sera entre autres question de mépris, de soins des rues, de Stefan Zweig, du goût des autres, de rancune, de Rilke, de cuisine et de Björk. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
Je regarde pousser, sonne un peu de travers. On dirait tu n'as pas l'air en forme, en forme de ce qu'il faudrait. My girl, maintenant je te vois. My girl, je te connais déjà. Imagine un tuteur à tort. Si le vent veut te transformer en fleur. My girl, maintenant je te vois. My girl, je te connais déjà. My girl,
Laura Cahen et Pyjama, le morceau My Girl dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes avec Amélie Nothomb, qui aimerait comme changement dans l'environnement que les gens ne prennent plus les rues pour leurs poubelles. Vous qui avez vécu dans tant de pays différents, puisque votre père était diplomate, j'imagine, et puis au Japon beaucoup, est-ce que ce mythe de la propreté absolue au Japon est vrai ?
Complètement vrai. Sauf dans les trains, très curieusement. Dans les trains à grande vitesse, les Japonais deviennent de véritables barbares. C'est-à-dire qu'ils s'asseyent exactement à leur place, ça, on ne déroge pas à ça, mais ils s'achètent des plateaux repas et puis après ils les jettent par terre. C'est très curieux. C'est une espèce de catharsis ferroviaire. Mais en dehors des trains, ils sont d'une propreté absolue.
Et pour la France, j'imagine que vous parlez de la France, pour les rues poubelles.
Oui, mais aussi de la Belgique, vous savez. Mon pays n'est pas épargné.
Quelles mesures proposez-vous pour dissuader les gens de jeter des choses par terre ?
Ah mon Dieu ! Je sèche là. Qu'est-ce que vous proposez, vous ?
Ah bah non, moi je propose rien du tout, puisque je suis quelqu'un d'assez désespéré et pessimiste, mais...
Des campagnes de ramassage, des punitions par ramassage de toute une rue, voilà.
Votre engagement, Amélie Nothomb, est individuel. Vous ne circulez qu'à Vélib ou en métro et réduisez oui. drastiquement vos déchets. Comment est-ce qu'on peut réduire ces déchets ?
Alors, ça dépend beaucoup de ce qu'on achète. Finalement, mes principales déchets, si on peut appeler ça des déchets, sont des bouteilles de champagne. C'est très bien, ça se recycle. Vive les boissons contenues dans des bouteilles de verre.
Mépris. L'amour excessif de l'estime fait que nous avons pour notre prochain ce mépris, qui se nomme insolence, hauteur ou fierté, selon qu'il a pour objet nos supérieurs, nos inférieurs ou nos égaux. Nous cherchons à abaisser davantage ceux qui sont au-dessous de nous, croyant nous élever à mesure qu'ils descendent plus bas, ou à faire tort à nos égaux pour nous ôter du pair avec eux, ou même à ravaler nos supérieurs, parce qu'ils nous font ombre par leur grandeur.
Une lecture de la définition du mépris dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert par notre collègue Fabrice Laigle sur un prélude pour clavecin de Mozart pour introduire le changement que vous aimeriez voir dans la société, que le mépris disparaisse.
Oui, la définition du mépris par Diderot est d'une élégance folle et d'une justesse assez grande, mais je pense que bon, même le mépris qu'il décrit est bien... bas et laid, mais je pense que le mépris a beaucoup empiré depuis. Aujourd'hui, le mépris, c'est devenu une espèce de rouleau compresseur, une source d'élévation personnelle, mais même l'élévation du plus bas. Je pense en particulier aux émissions de télé-réalité. Quand vous demandez aux gens pourquoi ils regardent les émissions de télé-réalité, ils vous disent « Oh, je trouve ça nul, mais j'aime voir combien les autres peuvent descendre bas. » Je pense que c'est la définition moderne du mépris. Éprouver du plaisir à voir combien les autres peuvent descendre bas. Je ne connais pas d'attitude justement plus méprisable que d'avoir du plaisir à voir combien les autres peuvent descendre bas.
C'est aussi le sentiment par lequel on considère quelque chose ou quelqu'un comme indigne d'estime ou d'intérêt. Est-ce que tout est digne d'intérêt pour autant ?
J'ai essayé de m'intéresser à absolument tout. C'est difficile, mais c'est un exercice intellectuel qui en vaut la peine. Bon, il est voué à l'échec, mais il faut quand même essayer.
Amélie Nothomb, il y a beaucoup de mépris dans vos œuvres. Je voulais savoir si vous aviez été, vous, beaucoup méprisée. Et puis, je vais citer cette phrase d'autobiographie de la fin. « Mon opinion est la moins intéressante de l'univers. » Vous parlez de vous qu'on consulte au sujet d'un catalogue d'art.
Écoutez, oui, vous avez raison, il y a beaucoup de mépris dans mes livres et croyez que j'en rougis, car il n'y a rien que je méprise autant que le mépris. Et j'ai beau travailler sur moi et faire tout ce que je peux pour m'arracher ce mépris du corps, il y est quand même bien accroché. Et bien évidemment, vous avez trouvé la raison comme telle, j'ai été énormément méprisée au cours de ma vie. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Au contraire, je trouve que c'est une circonstance aggravante de savoir quel effet ça fait d'être méprisé. Devrait m'exonérer à tout jamais de toute forme de mépris pour qui que ce soit. Mais soyez sûr que j'y travaille.
Oui, bon, je pense qu'on peut tous être pris en flagrant délit de mépris. C'est insidieux, on y est tous sujets sans forcément s'en rendre compte.
C'est souvent épidermique. Hein. C'est ce qui me rassure à mon propre sujet, c'est que je pense que dans mon cas, ce mépris n'est pas très profond. C'est un réflexe. On voit quelque chose qu'on trouve nul et on est pris d'un espèce d'accès de mépris, mais comme on éternuerait en présence d'une poussière. Bon, alors, ce n'est pas qu'il n'existe pas de choses méprisables. Malheureusement, il existe des choses méprisables. Ce n'est pas pour ça que le mépris est la solution.
Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, de quelque chose qui, au début, n'attisait absolument pas votre intérêt, voire excitait votre mépris, et puis finalement, en vous y intéressant, en faisant cet exercice mental, intellectuel, d'enlever la barrière du mépris, eh bien, vous avez changé de regard dessus?
Alors, ces objets existent certainement, bien qu'aucun exemple ne me vienne à l'esprit, mais ce n'est pas comme ça que j'ai envie de répondre, parce que je pense que parfois, on méprise des choses qui ne sont pas dignes d'une grande estime. Mais je trouve que ce n'est en rien une excuse. Quand bien même un objet serait réellement méprisable, il existe d'autres attitudes que le mépris. Il existe le silence. Le silence, c'est très très bien, parce que ça n'exprime aucun mépris, mais c'est quand même une prise de position très riche qui n'a rien de bas.
Ne faites pas des yeux si contris. Ça vous ennuie, bien sûr, d'avoir ainsi laissé échapper la vérité, d'avoir avoué que vous ne venez que parce que je fais pitié. Vous dites avec des circonlocutions, parce que je suis si seule toute la journée. Il y a longtemps que je le devinais, c'est par pitié que vous venez, et vous voudriez encore qu'on vous admira pour votre beau sacrifice, mais je regrette. Je ne veux pas de sacrifice. Je n'en veux de personne et de vous encore moins. Je vous le défends, vous entendez? Je vous le défends. Croyez-vous que je sois vraiment réduite à votre compagnie? À vos regards compatissants, vos regards humides, spongieux, à votre bavardage plein de ménagements? Non, Dieu merci, je n'ai pas besoin de vous tous.
Zabou Breitman lit un extrait de La pitié dangereuse de Stéphane Zweig dans l'émission Ça ne peut pas faire de mal de Guillaume Gallienne en 2010 sur Inter. J'ai lu ce livre grâce à vous, Amélie Nothomb.
J'en suis très fière.
Je l'ai dévoré. Je vous laisse nous faire une ébauche de l'intrigue pour les auditeurs avant de discuter de ce livre paru en 39 qui vous a appris, nous avez-vous écrit, le bon usage de la compassion.
Donc, La pitié dangereuse, ça raconte l'histoire d'un officier qui débarque dans un nouveau milieu et qui découvre une famille. La jeune fille de la maison est une jeune infirme absolument gracieuse et touchante, mais néanmoins infirme. Et son premier réflexe est de s'intéresser terriblement à cette jeune femme, mais il lui faut un certain temps pour s'apercevoir qu'il le fait uniquement parce qu'il a pitié d'elle. Elle n'est absolument pas son genre. Il aime les femmes saines, les femmes avec qui il peut éprouver du plaisir. Et il n'en éprouve aucun avec cette jeune fille. Et pour cause, elle est parfaitement maladive et en plus infirme. Et il va avoir un mal fou à comprendre sa propre attitude. Et au moment où il aura compris sa propre attitude, il sera allé beaucoup trop loin parce que cette jeune femme infirme n'est pas une idiote. Elle va finir par comprendre que si cet officier lui donne sa vie, c'est-à-dire qu'il va se fiancer avec elle, lui faire croire qu'il est fou amoureux d'elle, c'est uniquement parce qu'il a pitié d'elle. C'est évidemment la pire chose qu'on puisse faire, parce que cette jeune femme va d'abord le croire qu'il est amoureux, puis finalement comprendre qu'il a simplement pitié. Et donc, elle va être absolument ravagée par cette attitude. Bon, elle réagit là avec une... Elle réagit très bien, c'est très beau la tirade lue par Zabou Breitman. Mais bien évidemment, ça ne va pas s'arrêter là, ça va lui faire énormément de mal ce qui lui est arrivé. Donc cet homme, dans l'idée de sauver cette jeune femme, non seulement ne la sauvera pas, mais va la perdre.
C'est même encore plus complexe, puisqu'on pourrait penser simplement qu'il fait une erreur et puis par pitié, il lui fait croire des choses qui vont se révéler fausses. Mais c'est pire que ça, puisqu'au début, il met un pied dans l'engrenage. Au début, il est à un bal, il veut l'inviter à danser, il n'a pas vu qu'elle était dans un fauteuil et qu'elle ne pouvait se lever. Et puis finalement, elle fait un drame, qu'il ait osé l'inviter à danser. Il se sent tellement coupable qu'il veut se rattraper en envoyant des fleurs. L'engrenage se met en route, mais il y a tout l'entourage, le père de cette femme, le médecin de cette femme qui met une pression terrible sur le narrateur.
La pitié est un piège collectif. Ce jeune homme a quand même des excuses. Le monde conspire à nous faire pitié et à nous faire commettre des actes qui sont le contraire de notre désir, mais qui exauceraient une conception du bien complètement délétère.
Vous dites, Amélie Nothomb, que ce livre vous a appris la compassion. Comment avoir une bonne distance et un bon usage de la compassion?
Eh bien, chaque fois qu'on se sent pris au cœur par cette espèce d'étau de culpabilité qu'est la pitié, il faut se dire que non seulement on n'aide personne, mais on aggrave le mal. Chaque fois qu'on éprouve ça, il faut travailler à le transformer en compassion. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut pour la personne qui souffre? C'est terrible à dire, mais les trois quarts du temps, la seule chose qu'on peut pour la personne qui souffre, c'est lui sourire. Le sourire ne dit peut-être pas grand-chose, mais ça fait du bien. Tandis que la faire entrer dans le scénario de la pitié, ça c'est aggraver son mal.
J'imagine que vous vous êtes entraînée à cela, Amélie Nothomb, puisque je sais que vous avez tendance à être très poreuse et à garder les émotions de votre vie de façon très forte. Y a-t-il des émotions que vous évitez et l'écriture permet-elle véritablement une mise à distance de ces émotions ?
Dans l'écriture, tout est possible. Toutes ces mises en distance sont possibles, même si c'est toujours à double tranchant. Là, ce qui permet la mise en distance fragilise aussi. Malheureusement, on n'est pas toujours en train d'écrire. Il y a le moment où on rencontre les gens, je sais que...
Malheureusement.
Voilà. Ces rencontres peuvent être absolument merveilleuses, elles le sont très souvent. Mais je sais que je reste terriblement fragile vis-à-vis du sentiment de pitié. Si je rencontre une personne qui souffre et qui va montrer très fort sa souffrance, je sais que je vais devoir faire attention. Il ne s'agit en rien de culpabiliser la personne qui souffre. Je comprends qu'une personne qui souffre éprouve le besoin de le montrer. Mais il s'agit de ne pas laisser entrer un rapport de suggestion entre soi et la souffrance de l'autre.
Vous n'avez jamais jeté votre souffrance à la face de quelqu'un ?
Absolument jamais.
Peut-être grâce à l'écriture ?
C'est peut-être grâce à ça. Je pense que ça me vient aussi du fait d'avoir grandi en Extrême-Orient, où mettre en avant sa souffrance, inspirer pitié de quelque manière que ce soit, est vu comme parfaitement infamant.
Ah, je vous ai apporté les livres.
Ah, vous les avez lus déjà ?
J'ai pas pu. J'ai lu 4 pages, l'autre 10 pages. J'ai arrêté. Pas terrible comme livre.
Moi, j'ai trop magnifique.
Ah ouais ? Non, mais je...
Oui, vous les trouvez pas terribles, j'ai compris, ça va, fallait surtout pas vous forcer.
En même temps, si je me force pas, je dirai jamais.
Eh ben, vous direz jamais, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave. Votre pièce, je l'ai déjà relue 3 fois.
Oui, bon, bah d'accord, vous allez pas lire que ça toute votre vie, quand même.
Non, mais le roman que vous m'avez donné juste après, ça m'avait plu. J'avais bien aimé.
2000, Anne Alvaro et Jean-Pierre Bacri dans Le goût des autres d'Agnès Jaoui, écrit par Jean-Pierre Bacri et la réalisatrice. Ce film, Amélie Nothomb, figure aussi dans votre équipement existentiel et vous a appris à ne pas vous moquer du goût de certains. On revient à votre répulsion pour le mépris.
Oui, c'est un travail au long cours. Hein. Il suffit de se laisser aller et on recommence à mépriser. C'est très facile de mépriser. C'est une façon de se sentir supérieur à bon compte. Il faut perpétuellement faire attention à ça.
Oui, puisque l'histoire, c'est un chef d'entreprise, Jean-Pierre Bacri, peut porter sur la culture, qui tombe amoureux d'une actrice de théâtre, qui lui donne des cours d'anglais par coïncidence, et elle le prend un peu pour un beauf.
C'est ça, elle le prend pour un beauf. C'est un film magnifique, justement, sur le thème du mépris, parce que quand finalement elle comprend qui est cet homme, qui en effet est un homme très simple, mais très bien, et quand il la prend en flagrant délit de mépris, et qu'il lui montre son mépris, elle va être dans ses petits souliers. C'est vraiment un très, très beau film.
Oui, parce qu'il y a un moment où, justement, ce personnage incarné par Jean-Pierre Bacri a un monologue magnifique où il montre l'étendue de sa sensibilité. Et puis, finalement, c'est simplement qu'il n'a pas eu les outils pour accéder à cette culture.
C'est ça.
Est-ce que cela arrive souvent que les œuvres vous enseignent quelque chose, Amélie Nothomb ?
Mais continuellement. Et de préférence, ce qu'elles ne sont pas censées enseigner. Vous savez ce que c'est, hein, le livre à message, généralement, ne nous apprend absolument pas le message prévu. Les Liaisons dangereuses, qui a été un livre écrit dans le but d'édifier sur la vertu, ne nous apprend absolument pas la vertu, nous apprend au contraire le libertinage. Donc oui, j'apprends énormément par les livres, mais rarement ce dont il est question.
Vous avez un exemple en tête ?
Par exemple, je pense que j'ai bien appris à boire du champagne grâce à certains livres.
Ah oui, lesquels ? Fitzgerald ?
Fitzgerald, bien sûr, mais même Monterland parle du coup de fouet de la flûte de champagne, d'arriver dans une mondanité, d'être absolument tétanisé d'angoisse, et puis de prendre une flûte de champagne qui va vous donner une espèce de coup de fouet qui va transformer votre horreur en sentiment d'euphorie. Oui, c'est des choses que j'ai apprises en littérature.
Quand vous lisez, ça vous influence ? J'imagine que si, par exemple, vous lisiez Bukowski, vous éprouveriez moins de plaisir à boire, parce que c'est plus sale.
Alors, ce que j'éprouve en lisant Bukowski, c'est de l'admiration pure et simple. Parce que Bukowski boit les pires choses.
Ah oui, les pires choses.
Mais les pires choses. Et il les boit avec un héroïsme et une santé. Et il écrit sous l'emprise de ces choses. Pour moi, c'est le héros absolu, Bukowski. On parlait tout à l'heure du mépris. Bukowski enseigne l'inverse du mépris. Il inverse la plus haute admiration face à ce surhomme capable d'écrire des splendeurs en buvant de la merde.
Qui ne se prend jamais au sérieux, mais qui quand même, quelquefois, vomit dans des casseroles sous son lit.
Oui, il n'y a rien de bas à ça. Et puis même, c'est très sain. J'admire beaucoup.
Très sain, mais peut-être pas olfactivement.
Ah, ça ne doit pas sentir bon chez lui.
De dire le titre The Grudge du groupe de métal progressif de Los Angeles Tool, morceau qui vous a appris comment vivre la rancune à Mélinoton, mais je vous voyais remuer dessus.
Mais oui, parce que bon, cette musique est sublime, tout ce que fait Tool est sublime, mais en plus cette musique-ci, elle soigne d'une terrible maladie qui nous frappe tous un jour ou l'autre, qui est la rancune. Je parle de la rancune grave, hein. Quelqu'un s'est réellement très mal conduit envers vous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà une vraie question. Eh bien, Tool nous enseigne quoi faire avec ça. Le chanteur de Tool, qui a de très 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 bonnes raisons d'éprouver une rancune monstre à l'égard de quelqu'un, raconte comment il vit la rancune. Il le dit magnifiquement, il le dit sans aucune fausse pudeur. Il parle vraiment de ce besoin de tuer la personne qui vous a fait du mal. Comment il faut se laisser traversé par cette rage, mais à fond, sans lui opposer aucune résistance. L'erreur, c'est de résister à la rancune. Il faut au contraire vraiment se laisser habiter par elle au maximum pour pouvoir, à un moment, se dire tout simplement qu'elle est passée. C'est comme un accès de fièvre. Il faut accepter cette fièvre à fond jusqu'au moment où elle vous quitte.
Et comme avec tous les sentiments négatifs qu'on essaye de fuir, en somme, j'imagine, oui. La tristesse qu'on fuit tout le temps et finalement qui nous poursuit.
C'est ça. Quand un sentiment négatif se présente, il ne faut en aucun cas le fuir. Il faut au contraire y plonger à fond, se laisser bouffer par ce sentiment à fond, parce que c'est le moyen d'en guérir.
Est-ce que vous écoutez beaucoup de métal, Amélie Nothomb?
J'écoute énormément de métal, et particulièrement Tool, bien sûr. Le plus grand jour de l'année, ça a été le 12 mai 2022, concert de Tool à Bercy.
Est-ce que vous écrivez en musique?
Non, surtout pas. Car quand j'écris, je crée mon son, qui est un son qui, bien sûr, est très loin, malheureusement, du son de Tool, mais c'est quand même mon son. Et vous pensez bien qu'un son aussi puissant que celui de Tool, par exemple, mais même que le son de Schubert ou le son de Chopin, qui sont des musiciens que j'adore aussi, moucherait mon son, qui est un son ténu, auquel je dois travailler en orfèvre. Donc non, j'écris dans le plus grand silence.
Puisque c'est une autre musique, l'écriture.
C'est une autre musique.
Dans le livre des sœurs, votre dernier livre, le disque fétiche de Cosette, la sœur de la narratrice. Donc Cosette qui est la leader des pneus, c'est Tainted Love de Soft Cell.
C'était la chanson fétiche de mon adolescence et je l'aime encore beaucoup aujourd'hui, y compris dans ses nombreuses reprises.
Vous dites aussi, dans le même livre, la musique constitue pour le commun des mortels une passion d'adolescence. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on aime les vieux morceaux qu'on aimait adolescents et puis qu'au-delà de ça, il y en a peu de nouveaux qui font leur entrée dans notre panthéon personnel.
Oui, c'est une chose qui me désole parce que j'observe ça chez la plupart des gens. Chez la plupart des gens, de 15 à 23 ans, la musique devient l'essentiel de la vie, ce qui est une merveilleuse conception de la vie. Et puis, à partir de 23 ans, ça décroît. Très vite, on n'écoute plus de nouvelles musiques. Vient le moment où on n'écoute même plus les musiques qu'on écoutait entre 15 et 23 ans. J'observe ça chez tellement de gens, ça me navre, parce que qu'est-ce qu'on peut faire de mieux sur Terre que d'écouter de la musique?
Mais chez vous, Amélie Nothomb, qui avait tous les âges et surtout ceux de l'enfance, vous écoutez beaucoup de musique.
J'écoute énormément de musique. Et c'est ce qui m'empêche d'ailleurs d'être quelqu'un de pessimiste. Parce que même si on peut dire que tout va mal, et de fait tout va mal sur Terre et même de plus en plus mal, c'est pas le cas pour la musique. La musique n'est pas du tout en période de décadence. Bien au contraire, je trouve que la musique n'a jamais été aussi intéressante qu'aujourd'hui.
Vous avez écrit, je crois, des paroles de chansons.
Oui, alors, c'est très difficile d'écrire des paroles de chansons parce qu'il faut être inspiré par la personne. Et parfois, on rencontre des gens qu'on adore et malgré tout, on ne parvient pas à être inspiré par eux. Il se trouve que j'ai rencontré la chanteuse Robert et qu'elle m'a hautement inspirée, donc j'ai écrit pour elle 7 textes de chansons. J'ai eu aussi le grand honneur d'écrire un texte de chanson pour Juliette Gréco.
Très élégant.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Street when I woke up early this morning, I said, hey, Mr. DJ, ain't got no money. I throw my hands up in the air and I wave them like I just don't care. I'm down on my knees begging you, please, you're not like all the other girls.
Charlotte Adigeri et Bolis Pupul, dont j'adore prononcer le nom, le dansant « Ceci n'est pas un cliché » dans l'embellie sur France Inter, toujours en compagnie d'Amélie Nothomb. Voici ce que tout le monde devrait lire pour être armé dans l'existence, selon vous.
Votre regard est tourné vers le dehors. C'est cela surtout que maintenant vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide. Personne. Il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même. Cherchez le besoin qui vous fait écrire. Examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Confessez-vous à vous-même. Mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire ?
Lettre à un jeune poète de Rilke, lu par Jean Negroni dans Poète d'aujourd'hui en 1971 sur France Culture. C'est le livre qui revient le plus dans l'émission et je vais bientôt l'interdire. Mais je sais comme il a compté pour vous, Amélie Nothomb, vous parlez à son sujet du bon usage de la vie.
Oui, parce que tout ce qu'il dit sur l'écriture est valable pour absolument toutes les passions et toutes les disciplines. C'est pour avoir lu Lettres à un jeune poète de Rilke, qu'à l'âge de 17 ans, je me suis sentie autorisée à écrire, chose que je me défendais auparavant, parce que j'étais tout de même assez lucide pour me rendre compte que supposer avoir du talent était idiot et qu'il n'y avait aucune raison que je me croie autorisée d'entrer dans le temple de la littérature. Et puis, je lis Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke et je vois que je n'envisageais pas les choses sous le bon angle. La seule question qu'on doive se poser, mais qu'il s'agisse d'écriture, qu'il s'agisse de plongée sous-marine, qu'il s'agisse de quoi que ce soit, c'est est-ce que oui ou non, je mourrais de ne pas le faire ? Et si, entre son âme et conscience, en toute honnêteté, on répond « oui, je mourrais de ne pas le faire », alors peu importe, on aura forcément du talent un jour.
Vous mourriez donc s'il vous était interdit d'écrire ?
Oui, mais ça c'est certain.
Amélie Nothomb, dans Autobiographie de la fin, vous revenez sur un drame qui vous est arrivé à l'âge de 12 ans au Bangladesh, qui a fait qu'après, vous étiez sous le choc et vous ne pouviez plus vous raconter les histoires comme avant. Et c'est à 17 ans la lecture de Lettres à un jeune poète.
C'est ça. Il y a donc eu une très très longue traversée du désert entre mes 12 ans et demi et mes 17 ans. Vraiment le chaos de l'adolescence. C'est un miracle d'y avoir survécu, mais je ne pense qu'il n'y a pas là un miracle très personnel. J'ai l'impression que pour tout le monde, survivre à son adolescence est un véritable miracle.
C'est très joli. Amélie Nothomb, quand vous parlez de votre adolescence, vous parlez du fait qu'elle fut interminable, solitaire, et qu'elle est aussi la preuve qu'on peut être sauvé tous les jours par des livres. Pour vous, ça a été Stendhal, Monteerland, Virginia Woolf. Et justement, les jeunes filles de Monteerland que vous avez lues plus de 100 fois et que vous relisez régulièrement, c'est en fait un contre-exemple, puisqu'il est d'une misogynie extraordinaire. J'adore Monteerland aussi, mais...
Oui, mais c'est le grand paradoxe. Les livres qui font... Enfin, c'est peut-être une bizarrerie personnelle, mais... Les livres qui me font le plus de bien ne sont jamais des livres gentils. Plus un livre est atroce, plus il me fait du bien. Je ne sais pas, c'est comme s'il y avait plus d'anticorps. On lit aussi pour sécréter des anticorps. Et Monteerland m'a fait sécréter une dose d'anticorps tout à fait extraordinaire. Bon, Monteerland, dans Les jeunes filles, aborde le problème, ce qui était sans doute un problème à son époque, de la féminité. Bon, j'avais 14 ans la première fois que j'ai lu ce livre, donc j'étais en train de devenir une femme, et mon Dieu, quel remède de cheval de voir le pire portrait de femme qu'on puisse imaginer. Bon, eh bien, le bon côté de l'affaire, c'est que j'ai su tout de suite ce que je ne voulais pas devenir. Il m'a fallu beaucoup de temps pour découvrir Marguerite Yourcenar et donc pour découvrir que, rassurez-vous, je ne me prends pas pour Yourcenar et je sais qu'il n'y a aucun espoir que je lui ressemble un jour, mais pour découvrir qu'on pouvait être une femme en étant vraiment une personne extraordinaire.
Oui, la féminité dans vos livres pose régulièrement problème aussi. Surtout le passage de la petite fille à l'adolescente.
Oui, alors je n'ai jamais été un homme, donc je ne peux absolument pas faire la comparaison.
En esprit, vous l'avez été.
Oui, mais je ne l'ai pas vécu dans mon corps, ce qui est quand même ce qui rend cette expérience incommunicable pour moi. Ce que je sais avec certitude, c'est qu'être une femme est très difficile, mais il m'a fallu du temps. La Nietzsche et Rilke y ont énormément contribué en me faisant valoir que plus une expérience est difficile, plus elle est appréciable et enviable. Donc comme je crois qu'il est beaucoup plus difficile d'être une femme que d'être un homme, j'apprécie hautement d'être une femme. Parce que c'est beaucoup plus intéressant.
C'est très encourageant. Amélie Nothomb, je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie. Vous avez répondu une œuvre. Vous êtes chez Albin Michel depuis 3 décennies. Vous publiez un livre par an, le Livre des Sœurs est le 31e, je crois.
Oui.
Vous avez vendu 16 millions d'exemplaires de livres à travers le monde, reçu une dizaine de prix littéraires. Est-ce qu'on peut dire que ce souhait est accompli ou manque-t-il beaucoup pour qu'il le soit ?
Alors, jusqu'à présent, tout va bien. Mais ce que j'aime le plus dans l'écriture, c'est l'écriture. Et comme il n'est pas prévu que je meure tout de suite, j'espère que je pourrai toujours écrire. Je m'en donne tous les jours les moyens. Je vis dans la terreur de perdre, je ne vais pas dire cette grâce, parce que ce serait très exagéré de dire que c'est une grâce, mais de perdre cette aptitude à le faire tous les jours. C'est ma principale angoisse.
Il paraît que votre fantasme après votre mort, c'est que tous vos manuscrits soient publiés sous la forme d'un géoglyphe, c'est-à-dire un parcours visible du haut et qui fait sens. Un géoglyphe, en gros, c'est quand on s'élève dans les airs, par exemple, et qu'on voit un dessin sur le sol.
Pour être plus précise, ce n'est pas qu'il soit publié, c'est qu'à ma mort, moi, je comprenne le géoglyphe.
Vous, à votre mort, vous le comprendriez ?
J'aimerais... Parce que je suis quand même en train d'écrire mon 107e manuscrit. Certains jours, je suis intriguée. Je me dis, mais où vais-je ? À quoi correspond ce parcours absolument incroyable ? J'aimerais qu'au moment de ma mort, à supposer que je m'élève, ce qui n'est pas sûr du tout, que je vois apparaître le géoglyphe.
Vous le voyez déjà un petit peu ?
Pas du tout.
C'est vrai ?
Mais absolument pas.
Parce que quand on vous lit, dans plein de livres, il y a beaucoup de correspondances.
Mais vous êtes beaucoup plus sagace que moi, Eva. Ça ne m'étonne pas de vous.
Non, à moi, ça m'étonne beaucoup de moi. Amélie Nothomb, je rougis, donc je sors de ce mauvais pas avec la question suivante. Je vous ai demandé ce que vous aviez raté. Vous avez dit la cuisine.
Ah oui.
Vous avez souvent parlé de votre anorexie adolescente et de celle de votre sœur, qui a néanmoins publié un livre de recettes, La cuisine d'Amélie, 80 recettes de derrière les fagots, avec ce qu'elle cuisine pour vous faire plaisir dedans, des choses assez régressives dans le bon sens du terme, c'est-à-dire enfantines, très sucrées, remplies de cacao, de...
Oui, alors, je suis sortie de cette anorexie, ça ne signifie pas qu'on en sort sans séquelles. Hein. Toute personne qui a vécu une véritable anorexie sait qu'il en reste vraiment quelque chose. Mais je suis capable d'éprouver le plaisir de manger, et tant qu'à éprouver le plaisir de manger, j'aime particulièrement les nourritures d'enfants, les nourritures régressives, les gâteaux, le chocolat, les choses comme ça, c'est ce que je préfère.
Elles ne vous font pas de mal physiologiquement ?
Alors, c'est une chose très bizarre. Quand je suis sortie de mon anorexie, je ne digérais plus rien, mais plus rien. Maintenant, beaucoup d'années ont passé et il y a quelque chose de nietzschéen en moi parce que je suis devenue le contraire. Maintenant, je digérerais des briques. Il n'y a rien que je ne puisse digérer.
Dans Métaphysique des tubes, votre grand-mère, enfin, au personnage de fiction, donne du chocolat blanc et puis le bébé qui n'a pas bougé depuis 2 ans naît enfin par le plaisir. Il y a des spéculos dans Autobiographie de la faim aussi, avec cette scène de plaisir intense décrite. Vous dites, Amélie Nothomb, que la base de votre alimentation, c'est le chocolat et le champagne, c'est vrai ?
C'est complètement vrai. Et alors, je ne sais pas ce que ça vaut diététiquement, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression que ça me réussit.
Vous mangez d'autres choses tout de même ?
Mais oui, parce que déjà je suis quelqu'un de bien élevé et qu'il m'arrive souvent de manger en société. Mais quand je peux choisir mon alimentation, je choisis du chocolat et du champagne. En plus, je trouve que ça va bien ensemble.
Voici ce que vous recommandez de beau aux auditeurs. All these accidents that happen, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. To speak, I feel emotional landscape. La chanson Yoga de Björk sur l'album Homogénique, dont la pochette pourrait vous évoquer Amélie Nothomb, puisqu'elle est dans un kimono japonais sublime en soie avec un rouge à lèvres rouge et ses cheveux noirs, très graphiques.
J'adore cet album. Bon, je vénère Björk, mais du début à la fin, parce que beaucoup de gens disent qu'ils n'aiment de Björk que le début. Moi, j'aime tout de Björk. Bien sûr, il y a des albums que j'écoute plus que d'autres. Homogénique fait partie de ces albums. Mais même chaque fois qu'il y a un nouveau Björk, je me jette dessus. C'est parfois très compliqué, mais c'est toujours tellement fort.
Vous aimez quand c'est compliqué ?
J'aime bien quand c'est compliqué. Les expériences faciles, on ne les retient pas.
Oui, ça revient souvent depuis le début de l'émission.
Mais oui, je maintiens que le plaisir est une expérience difficile.
Taxi du groupe La Femme, pour arriver à votre engagement de fin d'émission, Amélie Nothomb, qui reprend ce que vous évoquiez au début, finalement, prendre le moins de taxis possible.
Absolument. je vais partir en métro. En ce moment, je ne prends pas le Vélib parce qu'il fait réellement très froid. Je ne suis quand même pas masochiste. Puis voilà, le métro, c'est pas si mal.
Tout le monde ne vous saute pas dessus dans le métro ?
Non, vous savez, je ne suis pas Madonna. Les gens restent très, 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 très gentils. Donc oui, vive les transports en commun.
Alors j'ai une question bonus, si vous me permettez. C'est après avoir lu le livre des sœurs, et je ne vais pas dire à quoi je fais référence dans le livre pour ne pas trop en révéler. Pensez-vous, Amélie Nothomb, que les morts ou les démons peuvent habiter à l'intérieur des vivants ?
Mais bien sûr, je le constate tous les jours.
Il y a des démons ou des morts en vous ?
Je suis quelqu'un de très habité.
Vous entendez bien avec eux ? C'est plutôt une habitation pacifique ?
Non, ça se passe. Ça dépend lesquels. Il y en a avec lesquels je m'entends très très bien, comme mon père par exemple, mais mon père n'est pas un démon. Et il y a des démons plutôt sympathiques et d'autres qui avec lesquels ça ne va pas du tout. Mais j'ai essayé, vous savez, comment on dit là ? J'ai essayé d'exorciser, ça ne marche pas, je ne suis pas un bon terrain pour l'exorcisme.
Vous avez essayé comment, littéralement, en allant voir des gens
en faisant quelque chose de beaucoup plus violent. J'ai essayé d'exorciser sous ayahuasca, c'est-à-dire à la première personne du singulier. C'est une expérience super violente, ça n'a donné aucun résultat. Donc j'ai compris, je dois vivre avec mes démons, c'est très difficile. Mais vous savez, c'est en grande partie de la géographie. Hein. Finalement, j'ai compris où ils se localisaient. Donc, j'essaye de... Voilà, j'ai compris, tu habites là, je ne viens pas te déranger, ne me dérange pas non plus.
Vous avez trouvé un modus operandi pour la cohabitation, bien
c'est
qu'il
ça,
soit compliqué.
Qui ne marche pas tous les jours. Hein.
Non.
Mais globalement, ça va.
Merci beaucoup, Amélie Nothomb, d'être venue dans cette émission.
Merci à vous, Eva.
Je rappelle que votre dernier roman, Le Livre des Sœurs, est paru cette année chez Albin Michel. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez la pétulance d'un Troène thaumaturge. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.